manger, il nous apporte la parole, ayez un cœur ouvert et disponible pour recevoir ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Nous bénissons nos prophètes dans le nom de Jésus.
Amen.
Amen.
Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ.
Amen.
Ah, Seigneur. Ouais, Seigneur.
Ah oui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je salue aussi les frères qui sont sur Internet. Que le Seigneur nous bénisse tous. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin.
Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut en parler comme ça? On est l'emblème du Napeda, un beau palais, une couronne de la Seine. Le maître des oreilles, le Seigneur d'Orle, moi, je suis très mon sauveur, il m'a tant aimé. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons que tout culte soit meilleur, Père. Merci parce que tu étais déjà présent dès le commencement. Et Seigneur, nous savons, aussi fidèle que tu es, que tu seras là jusqu'à la fin. Ah Seigneur, prends l'autorité sur nos cœurs. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin que tu nous parles. Seigneur, le monde traverse un tumulte grand. Seigneur, c'est ta voix qui apaise. Nous avons besoin de t'entendre. Que toute la gloire te revienne.
Alléluia.
Mon âme est rafraîchie par ton onction envahie. Je suis restauré, guéri par ton onction envahie. Mon âme Je vous invite à prendre vos Bibles Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, au chapitre 3. Alléluia. Exode, chapitre 3. Et je vais lire à partir du verset 1. Alléluia. Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Il est écrit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson se trouve sur le point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se penche sur le point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait du regard de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui sont parvenus. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays. Dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jubéciens. Voici les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression qui leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase-là? Je serai avec toi. Une fois de plus, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Si je voulais donner un titre à ce message, je dirais tout simplement, je serai avec toi.
Alléluia.
Et ce je serai avec toi, quelqu'un dira, mais écoute, le Seigneur l'a dit dans Matthieu 28, verset 20, moi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pour finir, le Seigneur est déjà avec nous. Y a-t-il une différence entre ce « je serai avec toi » et puis la présence de tous les jours du Seigneur? C'est une question que je me pose. Mais je comprends que comme le Seigneur te dit, dans le cas de Moïse et dans bien d'autres, je serai avec toi. Le Seigneur met à disposition toute sa force sur la vie. Amen. Et plusieurs grands hommes de Dieu, c'est la Bible. Je veux commencer par Abraham, Moïse, Joseph, etc. Le Seigneur s'est toujours, a toujours donné cette parole pour tous les grands conquérants. Amen. Je serai avec toi. Vous connaissez un peu, Moïse est un descendant, n'est-ce pas, d'une grande lignée. Vous connaissez l'histoire de Jacob, de Joseph, jusqu'à Moïse. Donc, Jacob a eu donc un fils. Je vais vraiment essayer de le résumer pour ne pas qu'on se tire trop là-dessus. Qui était donc Joseph qui a été vendu par ses frères. Il a été donc vendu par ses frères. Et il s'est retrouvé donc, en Égypte. Et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et Potiphar était une personne importante, était une autorité. Et quand Potiphar, quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, Potiphar a perçu une grâce exceptionnelle sur la vie. Il a senti la main de Dieu sur la vie de Joseph. Et cela a impacté sa maison. Parce qu'il a dit que tout ce que Joseph faisait lui réussissait et lui en tirait bénéfice. Donc toutes ses affaires allaient de l'avant. Alors Potiphar a tout cédé, en fait. Ah! Joseph, qui gère sa maison, ses affaires, et ça allait très bien. À un certain moment, le diable, qui, bien entendu, ne résiste jamais chez les moyens du combat des enfants de Dieu, a mis Joseph dans une situation. La femme de Potiphar a voulu pousser Joseph à commettre une faute grave. Joseph a refusé de le faire. Et bien entendu, il a été accusé par sa femme et Potiphar donc a fait jeter Joseph en prison. Et même en prison, la présence de Joseph était exceptionnelle des faits. Parce qu'il y avait probablement des tensions dans la prison, mais Joseph a pu apaiser la vie des prisonniers. Et Joseph était devenu même celui-là à qui on confiait la limite des clés, il était en prison. Il a apaisé tout le monde. Et un jour, il y a eu une situation dans la cour du roi. Et donc, son caviste, celui qui s'occupait par exemple des chansons dans la ville, et son boulanger ont été jetés en prison. Parce que, bon, mais probablement, on considérait qu'il était en train de fomenter un coup. Donc, ils étaient jetés en prison. Et du cœur de la désolation, ils ont voulu, ils ont reçu un songe et ils ont voulu comprendre ce qui se passait. Vous savez, il y a des rêves, il y a des songes qui te troublent. Et donc, ils ont voulu comprendre ce qui se passait. Et Joseph a expliqué leur songe de façon très, très claire. Et c'est ce songe-là, en tout cas, les chansons, celui qui s'avait levé pour voir, a été réhabilité dans ses fonctions. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus. Et le boulanger, lui a été exécuté, il a été décapité. Et à un certain moment, le chanson a été acquitté et quand ça prêtait à partir, je sais que tu m'écoutes, quand tu seras sorti, n'oublie pas. Deux ans supplémentaires, plus en loin de tout le monde, Joseph était abandonné. Et un jour aussi, va en fait un songe qui le perturbe. Parce qu'il y a certains songes qui, manifestement, on sent qu'il y a une portée spirituelle. Et c'est un de ces songes-là qu'on fait. Et dans son songe, il voit cette vache grasse qui est en train de paître. Et un peu plus tard, il voit encore cette vache maigre qui vient et qui dévore les vaches grasses. Et cela a perturbé Pharaon. Il ne pouvait pas se contenter de ce songe, il voulait le comprendre. Et pendant qu'il se posait la question, il voulait des gens pour expliquer, tout le monde séchait, personne n'est pas venu expliquer. Les chansons qui étaient là ce jour-là se disent, ah mais tiens, quand j'étais en prison, il y a un homme qui expliquait de façon très claire les sons intérieurs. C'est lui qui m'a dit que je serais acquitté, ça s'est bien passé, j'ai été acquitté. Si le roi veut, j'allais le chercher pour qu'il explique le rôle dans le sang du roi. Allez me chercher, dit-il. Alors, Joseph vient et Joseph explique distinctement, clairement, le songe. Il dit que les sèches, les vaches grasses représentent donc cette année de prospérité d'abondance et les vaches maigres représentent cette année de disette et de sécheresse. Et donc, le roi ayant été convaincu de l'explication qui a été donnée, décide de confier donc la gestion de tout le peuple. Parce qu'il dit, mais si tu as eu la sagesse pour comprendre cela, le Seigneur te donnera la sagesse pour expliquer pourquoi tu as conduit le peuple. Et donc, le prisonnier qu'il était, il se retrouve être premier ministre, qui vient juste au-dessus du trône. D'ailleurs, le pharaon lui confie tout, absolument tout, en dehors de son trône. Tout est être humain. Amen.
Amen.
Je suis avec. Et vraiment, le passage de Joseph en Égypte était remarquable. Parce qu'en effet, le singe, le songe s'est accompli tel que Joseph avait dit. Et le Seigneur a donné aussi la sagesse à Joseph pour gérer l'Égypte comme il s'y devait. Pendant les 7 années d'abondance, Joseph a fait stocker beaucoup de nourriture, beaucoup de provisions. Et quand on analyse, on comprend que Joseph, c'était la main de Dieu parce que pour stocker de la nourriture pendant 7 ans, une quantité suffisante, il a fallu mettre en place des techniques. Il a fallu en tout cas, développer un système pour pouvoir conserver la nourriture, stocker. Il a fallu mettre l'ensemble des dispositifs en place. Quand on lit entre les lignes, on se rend compte que même c'est Joseph qui avait conçu le système d'irrigation, même le système bancaire, parce que à terme, quand Joseph, en fait, quand un moment de disette s'est arrivé, Joseph a capitalisé ce qu'il avait stocké. Tout le monde venait s'approvisionner en Égypte. Et donc, Joseph a mis en place des systèmes bancaires, des systèmes d'impôts. Voilà, il avait mis de côté celui qui venait. Il a même racheté des terres de certaines personnes. En tout cas, c'était en tout cas, c'était un niveau que pour une personne qui sortait de prison, qui n'était ni économiste, ni géologue, ni je ne sais pas quoi, qu'il puisse diriger avec une telle vision. C'est la main de Dieu. C'est la présence de Dieu qui a distingué Joseph. Et cette famille-là, là, je pense que vous l'avez déjà parce que vous la connaissez, en fait, à un certain moment, la famille de Joseph a dû aussi chercher un moyen de s'endormir parce que la famille était devenue grande. Et donc, Joseph, donc en tout cas, les parents de Joseph sont venus chercher la provision. Et ça a permis à Joseph de rencontrer sa famille, etc. Et ensuite, il a invité ses parents à venir donc, habiter en Égypte. Et à un certain moment, le peuple a commencé à prospérer, a commencé à se multiplier. Amen.
Amen.
Vraiment, je passe sur les détails pour laisser un peu cette histoire. Et donc, les Hébreux, commencer à se multiplier, vous allez devenir de plus en plus fort. Amen. Alors, à un certain moment, je passe maintenant sur les détails, il a avancé, parce qu'à un certain moment, tout le peuple, tout Joseph, sa suite, ses parents, ils sont partis un peu du temps. Et donc, le peuple a commencé à aller de plus en plus. Joseph n'était plus là. Et il y a eu un autre pharaon qui est arrivé. Et celui-là s'est rendu compte que le peuple devenait de plus en plus fort, le peuple hébreu, de plus en plus nombreux. Et donc, il s'est dit, il faut que je trouve le moyen de pouvoir soumettre ce peuple. Amen. Je veux lire dans Exode 1, les propos, n'est-ce pas, de Pharaon, Exode chapitre 1, verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli, parce qu'il était de plus en plus nombreux. Ils s'élevèrent sur l'Égypte, un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il le s'accroisse et qu'il s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. Amen. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom, de Ramès pour servir de magasin à Pharaon. Ça veut dire qu'ils se sont dit, mais comment rendre ce peuple-là aveugle de sa force? Comment le soumettre? Comment le brimer? Comment l'occuper en sorte qu'il ne soit même pas conscient de ce qu'il représente? Comment exploiter au mieux cette ressource à notre avantage? Amen. Or, cela, vous voyez que pour finir, l'esclavage pour finir, c'est un système économique. C'est ça l'objectif. C'est comment s'enrichir, comment exploiter la force de l'autre, la force de travail de l'autre, et devenir de plus en plus riche. Et comment briser l'estime qu'on a de soi-même et accepter sa situation d'esclave. Et c'était la stratégie que ce pharaon met en place. Il se rend compte que ceux-là, s'ils se mettent en fort ensemble, puisqu'ils sont nombreux, ils sont travailleurs, ben ils seront trop forts. Donc, il faudrait les plier sur la charge du travail. Amen. Je continue à lire. Mais cela n'est pas très différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Cela n'est pas très différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu différent, ce n'est plus le coup de fouet. Mais déjà, l'ordinateur. Eh oui, tu peux pour certains, on peut donner un ordinateur, et à tout moment, il y a des alertes qui viennent, des petits messages chez nous, dans mon travail, ils ont un logo, ils appellent ça purité, qualité de vie au travail. À partir de 7h, quand tu mets ton ordinateur à 19h en marche, il t'affiche cela, et tu cliques dessus, puis tu continues à faire le travail en se rafraîchissant. On dit, alors, je ne suis pas obligé de travailler, vous savez, il y a le droit à la déconnexion, etc. Mais pas cette qui jette un coup d'œil. On te donne un téléphone, tu jettes un coup d'œil, ainsi de suite, et puis progressivement, on te bouffe pour ainsi de suite, on te bouffe vraiment ton autonomie, on t'arrache ce qui appartient à toi, et on te plie. Oh, tu as l'impression que tu as un certain confort, parce qu'on t'a donné les outils, c'est souple, mais pour finir, c'est ton temps de famille, c'est ton temps de prière, c'est ton temps pour te retrouver, que celui qui est établi sur toi cherche toujours à grignoter toujours un peu plus. Amen. Et avant le Dieu, je voudrais qu'on ait cela en conscience. Parce qu'aujourd'hui, nous avançons. Nous avançons. Le temps aussi, nous attendons le temps avance. Oui. Aujourd'hui, le monde nous fait croire que l'essentiel, c'est de garantir votre salaire. Oh, l'essentiel, c'est toutes les charges que tu as, il faut que tu puisses éduquer tes enfants. Ah, il faut que tu puisses te soigner, il faut que tu puisses t'envoyer. Alors, même malade, tu pourrais quelquefois brûler ton corps pour aller faire ton travail, pour pouvoir mériter ton salaire. Et les seuls moments où tu as un peu de répit, tu dis, je vais me reposer, c'est le jour qui est mis à part avec le Seigneur. C'est ton temps de prière. Alors, c'est ce que tu livres. Amen. Ah, je suis trop fatigué, je mange trop de dos, je ne peux pas venir. Voilà, là, je suis fatigué quand même de prière, je ne sais pas. Parce qu'il faut que je reste pour aller au travail. Très progressivement, le monde nous pousse à inverser les priorités. Aujourd'hui, les fardeaux du monde sont si pesants qu'on ne lève plus la tête pour regarder à l'essentiel. Et ça, il faudrait qu'on en soit conscient. Il faudrait qu'on en soit conscient. Combien de personnes qui disent à leur enfant, c'est vrai, la semaine a été tellement difficile. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est pas grave. Repose-toi, moi, je vais à l'église. Oui, c'est ce que nous vivons tous les jours. Et personne ne peut le contester. Progressivement, le monde est en train de s'imposer à nous. Progressivement, Pharaon mettait en place une technique pour soumettre le peuple de Dieu en sorte qu'il n'ait pas de temps de nous occuper de leur Dieu pour l'adoration. Et c'est un moment. Moïse est venu vers Pharaon pour dire, écoute, il faudrait que on ait la capacité pour qu'on aille appeler notre Dieu. Oh là là, Pharaon a fini très très mal. C'est parce que vous êtes des paresseux. Plutôt que de travailler, vous allez adorer Dieu, il n'est pas question. Écoutez, dans les temps même, on vous fournissait la paille pour faire les briques. Parce qu'ils étaient combien par merci. Désormais, vous ferez le même nombre de briques, on ne vous fournira rien. Vous irez chercher vous-même la paille et vous produirez, ça veut dire que je vais encore consommer le peu de temps que vous avez. C'est parce que vous avez du temps que vous pensez à adorer votre Dieu. Je vais faire en sorte que vous n'ayez plus du tout de temps et maintenant on va vous mettre la pression sans que tout le temps que vous aurez, vous le consacrez à moi. Amen. Oui. Aujourd'hui, il y a plein d'éléments comme ça qui viennent vous dire sur le temps. Vous l'avez un peu plus. Et les réseaux sociaux. Et ainsi de suite, que toutes ces choses-là qui paraissent tellement loin, mais d'ici de la formation, de la publicité, tu commences à cliquer sur une chose, ça t'appelle à une autre chose, ainsi de suite. Et tout le temps, le peu de moments que tu peux mettre, souvent, tu le vis encore. Oh, il a juste changé de visage. Mais comme on dit chez vous, vous savez, le chien de Saint-Laurent, ça m'a dit de s'asseoir. Ah oui. Il tourne. Mais ça, tu l'observes, c'est toujours la même chose. Comment faire? Pour prendre un peu plus. Quelquefois, c'était. Peut-être que ça paraissait trop violent. Maintenant, on fait en sorte que ça donne l'impression que tu dis à ceci. Mais la finalité est la même. La finalité est exactement la même. Comment te rendre esclave? Amen. Alors, Moïse, donc, va s'adresser. Et pourquoi Moïse va s'adresser à Pharaon? Comment d'ailleurs? Je voudrais lire un passage qui m'a interpellé et sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un temps pour soi. La Bible dit quoi? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je lis donc dans Exode 3, à partir du verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je vais lire le verset 9 qui suit. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur ont subi les Égyptiens. Amen. Frère, Dieu dit qu'il a vu les oppressions que font subir les Égyptiens d'Israël. Mais il a fallu que Dieu entende les cris d'Israël. Et cela m'a interpellé. Levez la voix que Dieu entende. Et levez la voix. Pleurez devant Dieu. Criez devant Dieu. Frère, il y a un élément qui m'interpelle, vous savez. De plus en plus dans notre société, on présente le silence, le prendre sur soi comme un signe de dignité. Par exemple, devant des situations difficiles où tu es déprimé, c'est malséant de se mettre à pleurnicher, à crier. Non, non, tu n'es pas digne. Souvent, il faut étouffer sa douleur. Il faut savoir taire sa souffrance. Mais c'est le meilleur moyen de te faire entendre sa voix. Amen. Parce que Dieu veut entendre. Je ne te dis pas de prier, de pleurer dans les rues. Mais devant son Dieu, on parle, devant son Dieu, on pleure, devant son Dieu, on crie.
Amen.
La société a tellement de leurs, tellement de ruses. Aujourd'hui, on voudrait que dans ta souffrance, tu gardes la dignité en ne disant rien. Mais Dieu voyait la souffrance, mais il attendait, il entendait les cris. Alléluia. Dieu veut entendre les cris. Je vais entendre les cris de son peuple. Je voudrais lire des propos d'un homme qui est remarquable dans la Bible, parce qu'il a connu comment fonctionne Dieu et il a su fonctionner avec Dieu. Je vais parler du roi David. Dans le psaume 142, je vais lire ce propos. Ce n'est pas très long, je vous invite à le relire, à le méditer ensuite. Vous avez écrit. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, priait. Psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. De ma voix,
alléluia,
je crie à l'Éternel. Dieu veut entendre ce qui sort de ta bouche. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel, enfant de Dieu, tu dois savoir crier à l'Éternel, tu dois savoir implorer l'Éternel, tu dois savoir parler à l'Éternel. L'Éternel n'aime pas le murmure, mais il aime celui qui ouvre sa bouche, qui parle, qui partage ses inquiétudes, qui partage ses faiblesses. Il aime celui qui ouvre son cœur. Alléluia. Celui qui dit à l'Éternel, qui compte sur lui. Amen. Alléluia. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Alléluia. Dieu voit la détresse, mais Dieu veut que tu lui racontes la détresse. Alléluia. C'est important. Alors, fais attention à cette dignité du peuple quand tu as ta souffrance. Tu es digne. Et puis tu portes ta souffrance dans le silence. C'est très important. Amen. Si tu es fort, vas-y, que je te regarde. Alléluia. Je reprends mes plaintes devant lui, je lui raconte ma détresse. Car mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mes sentiers. Dieu connaît. Sur la route où je marche, Ils m'ont tendu un piège. Je jette les yeux à droite et je regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie.
Alléluia.
Alléluia. Je dis, tu es mon refuge, mon pâturage sur la terre des vivants. Alléluia. Sois attentif à mes cris. Sois attentif à mes cris. Car je suis bien malheureux. Alléluia. Effectivement, tu peux être malheureux, mais c'est terre. Mais ça fait toute la différence dans celui qui crie à l'éternel. Il exprime son mal. Alléluia. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Car ils sont plus forts que moi. Confesse-le. Qui disait que Dieu dit qu'il est avec nous. Mais c'est un moment. Quand Dieu te le dit, c'est que Dieu veut déployer les forces surnaturelles pour pouvoir venir en soutien. Amen. Si mon âme de sa couronne, vous pouvez lire cela, le psaume 42, méditez-le, je vous en prie. Méditez-le. Donc le Seigneur nous donne une leçon sur notre relation avec lui. Alléluia.
Amen.
Sois éveillé. Sois éveillé. Vous savez, il n'y a pas un sentiment qui est plus sournois que l'orgueil. Plusieurs personnes se disent, non, moi, je ne suis pas orgueilleux. Mais c'est un sentiment qui est sournois, qui est fait. Mais tu verras que chacun en a un. Alors, le Seigneur nous a fait tout ce chemin-là. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Il sait toutes choses. Et pourtant, il veut que tu ouvres ta bouche et que tu cries dans la vie. Amen. Alors, donc je parlais de la dignité qui est un piège, je voudrais que tu le soulignes. Cette forme de dignité où on apprend à se taire. Alors, donc Moïse, le Seigneur le rencontre donc sur le haut rêve et puis lui dit, je vais t'envoyer pour délivrer mon peuple. Et Moïse dit, mais Seigneur, qui suis-je pour aller affronter, parler à Pharaon? Vous savez que Moïse, vous savez que vous connaissez l'histoire de Moïse. C'est vrai que la main de Dieu a toujours été sur Moïse. Parce qu'à certains moments, quand Pharaon a vu que le peuple hébreu se multipliait, il a demandé au sage-femme tuer tous les garçons qui vont naître. Amen. Et Moïse, quand il est né, à certains moments, ses parents l'ont caché. Jusqu'à un moment, il ne pouvait plus faire autrement. Alors, il l'a mis dans une corbeille et on l'a fait sauter sur le Nil. Et se trouvait que la fille de Pharaon était donc au bord du Nil et a voulu voir ce qu'il y avait dans la corbeille. Il se trouvait que c'était Moïse. Vraiment, je vous aime, vous lisez l'histoire, je vais passer le moment à l'échelle rapidement. C'était un joli enfant. Et donc, la soeur de Moïse qui était approchée a dit, mais écoutez, quand elle a vu que l'enfant, que la fille de Pharaon avait tout l'enfant, elle a dit, est-ce que vous voulez retrouver une nourrice? Elle a dit, oui, je veux retrouver une nourrice. Alors, elle a pris donc son frère, elle a ramené à sa mère, qui a allaité Moïse jusqu'à ce qu'il soit un jeune homme. Et elle a retourné à la maison de Pharaon. Donc, Moïse a été éduqué dans la maison de Pharaon. Moïse a été instruit dans les principes du fonctionnement de Pharaon. Donc, Moïse connaissait effectivement tout le mysticisme, connaissait le fonctionnement, connaissait toutes choses. Mais je me rends compte que Moïse aussi, pendant qu'il était encore nourrisson, déjà, il a été enseigné, il était conscient qu'il restait hébreu. On n'a pas pu arracher à Moïse son identité. Moïse a gardé l'esprit. Alors, Moïse, il connaît Pharaon, il connaît tout le mysticisme. Et c'est le rapport de Jésus, mais tu vas aller dire, il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que moi je suis devant Pharaon? Cette autorité-là, moi je le connais, je connais le fonctionnement. Comment est-ce que moi, je peux aller délivrer mon peuple? Qu'est-ce que j'ai comme âme pour faire? Alors, c'est le Dieu qui a subi après beaucoup d'hésitation, il décide de se faire le faire. Donc, il va devant Pharaon et Pharaon a dit que le bébé, peut-être que ce n'est même pas ma méchanceté, c'était parce qu'il dit à Pharaon que l'Éternel dit, mais c'est qui l'Éternel? Moi, je ne connais pas l'Éternel. Votre Dieu s'appelle l'Éternel et puis moi, vous êtes esclave chez moi. Mais votre Dieu, c'est un petit Dieu. Moi, je vous malmène. Vous avez un Dieu qui s'appelle, je ne sais pas qui c'est l'Éternel. Vous parlez de Dieu. Allez, mon Seigneur, les gars. Vous perdez le temps. Allez, travaillez. D'ailleurs, c'est parce qu'on ne peut pas savoir que vous parlez de Dieu. De toi. Moi, j'ai des dieux qui sont puissants. D'ailleurs, avec l'autorité de mes dieux, je vous ai dominé. Je vous domine. Vous êtes nombreux. Pourtant, je suis votre chef, etc. Donc, vous voyez qu'il est aussi plein d'orgueil. Il comptait sur sa force, sur tout son mysticisme. Alors, Dieu va se manifester. Il va montrer qu'il avait une Moïse. Bon, vous savez, d'abord, il y a eu donc l'affaire de Moïse qui a avalé donc les serpents que les autres avaient fait. Vraiment, n'allons pas dans ces détails lisés. Il y a eu les 10 plaies pour frapper les gens. Il y a une autre qui a été transformée en sang. Ah, ils sont venus aussi, ils ont fait leur magie. Donc, Pharaon se disait, mais voilà, ils ne sont pas aussi forts que ça. D'ailleurs, la verge s'est transformée en serpent, les autres aussi ont transformé leur verge en serpent. Mais il y a une différence. Le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Amen. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il s'agit de savoir qui était le plus fort. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'était des forces surnaturelles qui s'affrontaient. Mais Dieu montre tout fini qu'il est au-dessus. Parce qu'il a avalé les différents serpents. Serpents de la magie, il a avalé. Serpents de la maladie. Je ne sais pas ce que ça représentait, les différents serpents. Mais l'Éternel soumet toutes les autres autorités à son nom. Amen. Il a dit, libère-nous, on va aller adorer notre Dieu. Pharaon, à son avis, il n'a plus jamais de la vie, il ne pouvait pas. Ok. Le Seigneur donne un peu une consigne. Vous avez donc dit avec toi, c'est le Seigneur qui combat. Amen. Le Seigneur donne une consigne. Et arrêtez la verge. Que toute l'eau devient puissante. Ah, ils en font autant. Ah, mais donc, je donne des disques. Non, non, moi aussi, j'ai l'autorité. Et après encore, ils contestent. Et à un certain moment, le Seigneur appelle des grenouilles. Pharaon est déstabilisé. On commence déjà à négocier, tout le monde, tout à votre Dieu, etc. Et à partir de là, Dieu a commencé à poser des actes. Mais en affichissant le cœur de Pharaon. Amen. Alors, on a contesté le côté, Il y a eu donc les différentes plaies, c'est la poussière, les boues, ainsi de suite, les moustiques, les troupeaux d'Égypte, jusqu'à ce que le Seigneur frappe tous les pays. Il y a eu même l'obscurité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ou à cause de là où Dieu, le peuple de Dieu, c'est la lumière. Mais il y a eu l'obscurité, baisse tout le monde. Amen. Le Seigneur a manifesté puissamment sa voix. Amen. Frère, Dieu dit que quand Dieu marche pour toi, quand Dieu te dit que je serai avec toi, c'est lui qui te dit que je prends ma vie. Amen. Dieu veut combattre. Il y a beaucoup de combats qui nous dépassent. Et Dieu a dit ça. Il y a beaucoup de situations qui sont hors de notre portée. Dieu en est conscient. Mais je vais vous faire remarquer quand même une chose. Il s'agit quand même du peuple de Dieu qui a été malmené par Pharaon. Amen. Ça paraît d'ailleurs paradoxal que le peuple de Dieu soit maltraité, le peuple du plus grand, du plus fort, du plus puissant, soit maltraité par Pharaon. Quelle information quand même, les gars. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne peux pas connaître le Dieu. Que tu ne dois pas connaître le Dieu. Il faut que tu en sois conscient. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne connaîtras jamais la maladie. C'est vrai que le Seigneur en délivre. C'est vrai que le Seigneur guérit. Mais l'épreuve, c'est le baromètre, c'est l'unité de mesure. Soit pour te rappeler au Dieu de Dieu, soit pour jauger ta foi en Dieu. Amen.
Amen.
Un enfant de Dieu qui ne connaît pas de preuves ne peut pas te dire. Vous voyez que le preuve pousse l'enfant de Dieu à crier à son Dieu. Le preuve pousse l'enfant de Dieu à savoir qu'il a plus bien que lui. Le preuve pousse l'enfant de Dieu à s'humilier. Et le preuve montre l'enfant de Dieu combien est grand son Dieu.
Amen.
Car c'est un combat qui ne sont pas des combats. Mais Dieu a besoin que tu l'invites dans mon combat. La Bible dit que Dieu, il règne dans les cieux, il a donné la terre au Fils de l'homme. Et Dieu attend que par tes cris tu l'invites. Regardez même dans le jardin d'Éden. Si toi qui l'as confié le jardin d'Éden à Adam et Ève, Dieu n'entrait pas comme une mère. À la limite, il frappe à la porte. Adam, où es-tu? Dieu respecte la personne. Mais Dieu veut que tu l'invites la personne. Amen. Il y a des combats qui ne sont pas des combats. Mais pour ces combats-là, Dieu veut que tu l'invites. Amen. Vous savez, je vais finir là-dessus. Très souvent, les enfants de Dieu, nous prions, nous demandons des choses, des bénédictions qu'on appelle à Dieu. C'est bien, Dieu bénit. Mais je veux que tu n'oublies jamais. Que tu n'oublies jamais. Que toute bénédiction que Dieu te donne, il la donne par l'espoir. Tout ce que Dieu te donne, c'est accompagné d'une responsabilité. Si Dieu te donne un enfant, tu as le devoir de l'éduquer pour guérir un enfant.
Amen.
Si Dieu te donne de la richesse, tu as le devoir de jouer cela pour que ça bouge de mon vie. Alléluia. Regardez la différence qu'il y a entre David et Salomon. Je vais le dire vite fait. David aimait la présence de Dieu. David aimait la présence de Dieu. Il voulait se sentir la présence de Dieu. Et quand Salomon est venu prendre la relève de son père, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas dit comme David, je veux ta présence, Seigneur. Il a dit, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse pour juger ton peuple. Le Seigneur de la prophétie, il dit, je te donne l'intelligence et la sagesse, je te donne aussi la richesse. En même temps, il tournait de responsabilité à sa vie. Salomon n'a pas suivi, n'a pas trouvé le sujet de ses responsabilités. C'est le droit de mille fois. Père, quand Dieu te donne, c'est la parole de
responsabilité.
Amen. Amen. Quand Dieu combattait, il dit que je suis avec toi. Dieu combat pour toi. Mais quand Dieu te donne, quand tu demandes que Dieu te donne, c'est ta compagnie qui te laisse. Amen. Amen. Je voudrais que, en ce dimanche, chacun puisse se laisser. Nous prions. Peut-être qu'il est bien Dieu d'homme, mais il est bien de demander la présence de Dieu. Parce que si Dieu est avec toi, je te prends de la vie. Mais je te donne, je te dis, tel que je te donne. J'ai ce que je te donne. Sois sage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et l'Éternel, voici ce que tu veux que je chante avec les folles aujourd'hui. Eh bien, je te dis tellement pour ces paroles, que l'Éternel. Je prie que l'Éternel, pour vous, que je parle. Dans nos cultes personnels, ces paroles, que tu n'as plus pas. Seigneur, tu veux nos responsabilités. Seigneur, tu veux nos responsabilités. Tu veux ouvrir nos yeux, l'Éternel, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle qui produit. Seigneur, merci. Nous savons que le combat est tout grand, qu'il est bien à notre place, Père. Tu as tout, tu as fait toute chose de l'Éternel, de la gloire, Seigneur. Pour que nous sommes vraiment en Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.